Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Sa mère au salon.
Entrez.
Elle est assise. Il s'approche d'elle. Mère, je suis venu vous apporter mon livre. Il le tend.
Merci, Charles-André.
Elle le regarde. Le sous-pèse.
Il n'est pas bien lourd.
Regarde le nombre de pages.
C'est cher le prix du papier. Je te remercie.
Elle le pose sur la table. Attendez, mère. Je vais vous le dédicacer.
Oh oui.
Elle le lui tend.
Il va se mettre au secrétaire du salon pour écrire.
Prends la plume qui tremble dans l'encrier et écrit « À ma chère mère, avec toute ma reconnaissance, car sans elle, il n'y aurait pas eu de livre. » Et signe.
Il va le lui porter.
Merci.
Elle lit la dédicace.
Merci, c'est vraiment très gentil. Le livre est en vente quand ? Aujourd'hui ?
Il ne sait que répondre et avait complètement oublié qu'il en était le dépositaire et le responsable de la vente, en titre.
Oui, mère. Bien, je vais le lire et le faire lire à mes amis. On ne sait jamais.
La porte s'est ouverte. c'est Jules qui va vers eux. La mère dit encore
« Merci Charles André pour ta gentillesse, pour la dédicace. »
Jules demande « Que se passe-t-il ? » La mère lui dit
« Ton frère vient de faire éditer une de ses nouvelles et m'a offert un exemplaire. »
« Oh, c'est vrai ? Moi aussi j'en veux un. »
Charles André rougit. La mère dit
« Donne-lui-en un, ça lui fera tellement plaisir. » Et puis, il faut qu'il voie le talent de son frère.
Charles-André baisse la tête.
C'est-à-dire que... Est-ce trop immoral pour un enfant de 13 ans?
Non, sûrement pas.
Alors, offre-lui en un.
Oh oui, je veux bien. Je veux voir ce que tu as écrit.
Bien.
Et Charles-André sort de la pièce pour aller chercher un exemplaire. Dans sa chambre. Il ne peut vraiment pas reconnaître l'histoire, elle est trop transformée. Prends un exemplaire et retourne au salon.
Et il le donne à Jules. Merci. Tout heureux, l'enfant regarde la couverture. C'est impressionnant de voir son nom imprimé. Une histoire d'amour ? J'aurais mieux aimé une d'aventure. Tourne les pages. C'est toi qui as écrit tout ça ? Charles-André ne dit rien. Je vais le lire. Merci. Sa mère dit à Charles-André : N'oublie pas d'en offrir un à ton père. Oui, mère. Et. Il se retire.
Au café, il distribue à ses amis un exemplaire de sa brochure. On lui dit merci avec de grands cris et trouve la brochure très belle. En réalité, il rit sous plate, car ils ont tout de suite reconnu le genre de brochure éditée à compte d'auteur. Même papier, même présentation, chacun pense qu'il s'est fait avoir. Comme un bleu, et que ça a dû coûter au moins... cette chose et qui doit avoir la rame dans sa chambre pour plusieurs années. Un gros moustache lui dit « Il faut fêter ça, une tournée de la part du grand écrivain !» Et Charles se sent obligé d'offrir une tournée. En plus de leur offrir un livre, il faut, pour qu'ils vous remercient, que vous leur offriez une tournée. Une tournée égale deux ou trois, si ce n'est pas plus. Tout en buvant leur absinthe, chacun va jusqu'à lui enfoncer le clou, lire des extraits de son œuvre au hasard comme ça. Chacun y va de son petit commentaire. N'est-ce pas bien tourné ? Bon, voilà une scène bien tournée. C'est tout aussi bien que Flaubert. Non dur, non plus dur, et tous rient. Charles est moitié figue, moitié raisin. Il se dit, malgré lui, qu'il a fait tout ça, toutes ses dépenses, pour offrir à ses amis son œuvre, pour qu'ils puissent être fiers de lui, et voilà. Il a l'impression qu'on se moque de lui. Quel gâchis ! Et l'argent s'est tourné. Comment va-t-il faire ? pour la payer. Décidément, ce qui devait lui amener du plaisir, de la joie, ne lui apporte que du souci, de la tristesse, de la désillusion. Il entre chez ses parents, triste, a envie de pleurer. Il n'a pas bu. Il va dans sa chambre.
Il va dans sa chambre, il s'assoit sur une chaise.
Il regarde à terre ses deux piles de livres. Il a envie de les jeter. Demain, il doit payer le cafetier. Voilà à quoi cela lui a servi d'éditer cette nouvelle. Il voulait leur montrer ce dont il était capable. Il aurait aimé qu'ils encensent son talent. Tout d'un coup, la vérité lui apparaît. Je suis fou, à des alcooliques. Je voulais que ma notoriété soit faite par des alcooliques. Car en fait, ce ne sont que des alcooliques, des piliers de bar, des ratés. Oui, des ratés. Oui, oui. Et c'est à ces gens-là que je voulais ma notoriété. Pleure de rage, de honte. Ça l'énerve de voir ces deux piles. Il se lève pour les mettre en dessus de l'armoire.
Monte sur la chaise et va y déposer au-dessus de l'armoire. Voilà.
Le lendemain matin, il se réveille de mauvaise humeur. L'argent du cafetier, comment va-t-il faire? Il ne peut pas le demander à sa mère. Elle a déjà suffisamment fait. Il se lève, fait sa toilette. Son petit déjeuner sans brioche. Dehors, l'air est frais. Les gens qu'il croise marchent vite. Ce qui l'énerve encore plus, car il se dit que tous ces gens savent où ils vont, ce qu'ils ont à faire. Et lui, toujours hésitant, ne sachant comment résoudre ses problèmes, où aller, qui voir. Dépendant de sa famille, oh cette famille, comme ce matin, il aimerait être le seul descendant, tous morts. Et lui seul, avec leur fortune, il serait libre et ne dépendrait de personne. Il a honte de ce qu'il vient de dire, surtout à cause de sa sœur qu'il aime beaucoup. Il a envie de pleurer. C'est de sa faute tout ça. Il a péché par orgueil. Et cette œuvre, qui n'est même pas vraiment celle, la sienne. Il a pour ainsi dire volé à son frère. Son frère, qui lorsqu'il va la lire, va s'en apercevoir. Il va falloir encore rendre des comptes. Toujours rendre des comptes. Il aimerait partir. Partir loin, loin, loin. Et tout laisser tomber. Tout. Il marche pendant des heures en pensant à tout ça. Par hasard, il passe devant Place Satonnet. Regarde autour de lui. Trouve lugubre. Le cafetier. Oui, le cafetier. Je ne lui rapporte pas son argent. Il risque de sonner chez mes parents. Il s'assoit sur un banc. Tu sens là. Il voit des enfants jouer à se courir après. Ils sont en guenilles, maigres. Charles-André se dit avec tristesse qu'ils ne doivent pas manger tous les jours à leur faim. Une femme en guenilles, elle aussi, petite, grosse, les cheveux gris, pas peignés, le visage rougi et bouffi, vient les chercher en leur donnant des taloches pour les faire avancer. Pauvres enfants d'alcooliques qui doivent loger dans un taudis sur les pentes. Cela la triste. Cela la triste trop et se lève, traverse la place et prend la rue de la Martinière pour aller sur les quais de Saône. Sur les quais, il tombe sur une boutique. Livre neuf, livre ancien. Tiens, peut-être si je vendais un livre ou deux, peut-être que je me ferais un peu d'argent. Il entre dans la boutique. Elle est minuscule, noire, sale, pleine de livres partout, sur de vieux rognonnages de bois à terre. Un homme est assis sur un vieux tabouret. Il porte un béret, des cheveux et une barbe en broussailles grises, une vieille blouse grise aussi. « Monsieur Désir, j'aimerais savoir si vous achetez des livres. »«
Oui, cela dépend. »«
Et combien ?»«
Cela dépend aussi. Plus le livre est beau et rare, plus il coûte cher. »«
Ça peut aller jusqu'à combien ?»
Très, très cher, à presque rien du tout.
Vous êtes ouvert cet après-midi?
Oui, bien sûr.
Je vous amènerai un ou deux de mes livres.
Bien.
Et Charles-André sort de la boutique, Rayaradi. Arrivé chez ses parents, il se dirige à la bibliothèque. Ouvre le meuble. Regarde les titres et décide de prendre deux volumes de taille moyenne. Il cache les deux livres manquants en espaçant les autres et ferme la bibliothèque.
puis sort de la bibliothèque.
Il va dans sa chambre.
Il met dans sa serviette en cuir les deux livres. Dans l'après-midi, il est entré dans la librairie pour les présenter. Il sort de sa sacoche et les lui donne. Le libraire les regarde.
Très, très intéressant. Il y a de très jolies gravures, numérotées en plus, bien conservées. Vous en êtes le propriétaire?
Oui.
C'est sûr, parce que je n'aimerais pas avoir des ennuis. Vous avez un papier, quelque chose, disant que ces livres vous appartiennent?
Non, ils sont dans ma famille depuis fort longtemps.
Le libraire soupire et lui dit.
Bien, je vous le prends. Cela vous va-t-il?
Oui, monsieur.
Charles-André sort de la librairie tout heureux avec une belle somme.
Cela me permettra d'avoir un peu d'argent d'avance.
Il va vite rembourser le cafetier en se jurant de ne plus y retourner voir ses ploucs. Cette histoire de livre lui a donné une bonne leçon. Il ne veut plus perdre son temps, mais écrire, écrire, écrire pour devenir un vrai écrivain.
Le soir, dans sa chambre, allongé sur son lit, Jules lit la brochure que lui a donnée Charles-André. En voyant les pages imprimées, il n'arrive pas à s'imaginer que c'est de son frère, car ce que l'on lit, c'est toujours d'un inconnu, même si le nom vous est familier. Donc, il commence à lire, avec une attention toute particulière. Au début, l'histoire l'intéresse sans plus. Puis, quelques phrases, quelques passages lui rappellent quelque chose. Après avoir fini la nouvelle, qui est très courte, il est surpris. Il y a des passages entiers qui semblent tirés de ce qu'il a écrit. Pour en être sûr, il se lève pour aller voir dans son secrétaire son cahier.
Et on voit le secrétaire, son cahier. Il retourne au lit pour lire.
Et lit les deux nouvelles à la fois. Cette fois, il en est sûr. Son frère s'est servi de sa nouvelle pour écrire la sienne. Il est furieux. Il m'a volé mon œuvre et a fait publier à son nom. C'est un voleur. Il veut m'entendre.
lendemain matin, Jean-André dort lorsqu'il a été réveillé par la porte de la chambre qui s'est ouverte et voit arriver sur lui son frère en robe de chambre bleue. Jeter le livre.
Je te le rends. Tu n'es qu'un voleur. Tu m'as volé mon histoire. Et je veux, c'est que tu dises à tous que ce n'est pas toi qui l'as écrite.
Jean-André est tout rouge. Il ne sait quoi répondre.
Jules continue. Je savais que tu n'étais qu'un bon à rien. Comment tu peux être capable d'écrire quoi que ce soit? Mon pauvre, je te plains. Voler son frère.
Je vais en parler à père.
Et il se dirige vers la sortie.
Jean-André panique. Sort de son lit.
Je t'en prie, non.
Jules ouvre la porte et sort. Jean-André le suit.
Non, n'y va pas. Je t'en prie.
Jules continue à marcher. Jean-André le prend par l'épaule et le fait tourner pour le plaquer contre le mur.
Non. Laisse-moi. Non. Laisse.
Dit Jules.
N'y va pas. Non, ne me touche pas. Laisse-moi passer.
La porte de la chambre de sa sœur s'est ouverte et est en chemise de nuit blanche.
Que se passe-t-il ici?
Jean-André n'ose rien dire. Jules dit. Il ne veut pas que j'aille dire à père qu'il m'a volé ma nouvelle.
Ce n'est pas vrai.
Si c'est vrai, il me l'a volé et l'a fait éditer.
Apolline s'approche d'eux. Elle demande.
Comment cela?
Je lui réponds. Il a lu en cachette la nouvelle que j'avais écrite il y a de cela quelques années. Elle a fait une copie et l'a fait éditer à son nom.
Apolline demande.
C'est vrai, Charles-André? Il raconte n'importe quoi.
Jules Furieux dit.
Tu n'as qu'à la lire et tu verras.
Charles-André ouvre ses épaules et s'en retourne à sa chambre. Il dit à sa sœur en se retournant.
Les jaloux, voilà tout.
Apolline demande à Jules.
Alors, il lui dit. Bien, je vais te donner mon manuscrit.
Et ils vont dans la chambre de Jules. Là, dans la chambre, il donne son manuscrit.
Qui était resté sur son lit. Elle lui demande.
Comment pourrais-je savoir si ce n'est pas toi qui as écrit ceci après avoir lu ton frère?
Je lui dis.
Je l'ai écrite il y a 3 ans.
Oui, mais tu n'as aucune preuve.
Bon, je vais le lire. L'as-tu donné à Charles-André à lire?
Non, jamais. S'il a lu, c'est en cachette.
Elle sort de la chambre avec le livre.
Jules ne dit rien, ni à son père, ni à sa mère. Il veut attendre, savoir ce qu'en pense sa sœur.
Dans l'après-midi, dans sa chambre, assis à son secrétaire, Apolline lit la nouvelle de Jules.
Elle la trouve plus belle, mieux écrite que celle de son frère.
Les personnages sont mieux construits et son écriture est plus mûre.
Certains passages lui ont rappelé ceux de son frère et une ressemblance dans l'histoire, sa symétrie.
Elle relit en même temps les deux nouvelles.
Oui, des passages entiers se ressemblent beaucoup et la symétrie est la même.
Et comment savoir si Jules a écrit avant ou après son frère ?
Elle regarde le papier, l'encre, et voit qu'il commence à vieillir. Le papier jaunit, car il n'est pas de très bonne qualité. Mais cela ne veut pas dire grand-chose. Malgré le manque de preuves, elle sait à son fort intérieur que Jules a dit la vérité. Mais comment le prouver? Et puis des histoires qui se ressemblent sans vraiment se ressembler. Mais on sent tout de même qu'elles ont eu le même canevas. Je vais en parler à Charles.
Elle se lève et avec les deux livres à la main, sort de sa chambre pour aller retrouver Charles-André sur la terrasse.
Elle s'assoit à ses côtés. Charles-André rougit. Elle lui dit : J'ai lu la nouvelle de Jules et j'ai été surprise. Il a du talent et une très grande maturité. Il sait manier la phrase. Je ne sais pas si ce qu'il a dit est vrai, mais il est certain, c'est que j'ai ressenti une certaine ressemblance avec ta nouvelle. La même ossature, les passages presque identiques. Charles-André lui dit : Comment oses-tu dire ça ? Mon histoire n'est pas du tout la même. Elle se passe pendant la Révolution et la sienne de nos jours. Tu l'as lu ?
Oui.
Elle lui demande :
Quand ?
Charles-André rougit. Il me l'a fait lire il y a une semaine, bien après que j'ai donné la mienne à l'imprimeur. Y a-t-il lu la tienne avant que tu lises la sienne ?
Non, je ne sais pas.
Elle se lève et lui dit : Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que tu mens. Il ne répond pas, il est tout rouge. Là, elle en est sûre. C'est fini avec lui. Ce n'est qu'un bon à rien. Jules a raison, et puis sa nouvelle est meilleure que la sienne. Elle soupire et lui dit : Mon pauvre Charles-André, si j'étais toi, pour me faire pardonner, je donnerais la moitié de la vente à Jules. Elle s'éloigne. Il reste assis, penaud, honteux. La vente, il ne s'en souvenait plus. Ça ne l'intéresse plus. Il a plutôt envie de brûler toutes ces maudites brochures. Pauline est allée attendre à la sortie de son lycée Jules. Elle le voit sortir, va vers lui.
Bonjour.
Ils s'embrassent. Elle lui demande :
Ça va ?
Oui. Puis ils se mettent en route pour la maison. Tout en marchant, elle lui dit :
J'ai lu ta nouvelle, tu sais. Alors, tout d'abord, je la trouve très belle, bien construite, bien écrite. Tu as du talent. Je l'aime même mieux que l'autre.
Je lui demande : Alors tu me crois ? Elle soupire et lui dit :
Oui.
Je suis sûr que tu m'as dit la vérité. mais il n'y a pas de preuve pour dire que tu l'as écrite avant lui. » Je lui dis, « Mais je te dis que c'est lui qui m'a copié et non moi. » Elle lui dit, « Je le crois, mais comment le prouver ? Écoute, ce qui compte, c'est que lorsqu'on lit vos nouvelles, que ce soit la tienne, que l'on trouve la mieux. » Il lui dit, « Faut que je laisse tomber alors. » « Oui, tu as du talent, il faut que tu continues à écrire. » « Mais je continue ? Faudra me les faire lire alors. » Il lui dit, « Malheureusement, c'est trop personnel. » Elle lui dit, « Je n'insiste pas. Et puis, tu as le temps pour devenir un écrivain. Moi, je veux devenir comédienne. » Il lui dit, « Si maman savait ça... » « Oui, je sais. Ce serait un vrai scandale. » À partir de ce jour, Apolline porte toute son affection à Jules. Charles-André, elle le méprise. Elle trouve son frère charmant, avec un joli visage. Il sera beau plus tard. Elle est fière de se promener avec lui. Lui est content d'avoir une sœur qui le prend au sérieux. Et les choses en restent là. Charles-André s'isole dans sa famille. Il ne voit plus ses anciens amis. Quant aux livres, il ne cherche même pas à les rendre ou à les donner. Il reste sur l'armoire. Sa mère ne lui demande pas qu'il la rembourse. Elle sait qu'il ne le fera jamais. Il passe ses journées à broyer du noir dans sa chambre. Jules et Apolline sont toujours ensemble. Elle va le chercher à la sortie de ses cours. Rentre à pied en longeant les quais. À la maison, ils s'entraident pour les devoirs et qu'ils font au salon. Ils parlent, ils chuchotent de choses que les autres ne comprennent pas. De les voir, Charles-André, je suis encore plus déprimé. Fin de la deuxième époque.
Et maintenant, cher public, puisque vous avez été bien sage, la direction du théâtre vous offre 10 minutes d'entraque. Thank you.
et moi. Qu'est-ce que je suis dans cette histoire? La ronde. L'auteur? Le compère? Un passant? Je suis vous. Enfin, je suis n'importe quel d'entre vous. Je suis l'incarnation de votre désir. De votre désir de tout connaître. Les hommes ne connaissent jamais qu'une partie de la réalité. Et pourquoi? Parce qu'ils ne voient qu'un seul aspect des choses. Moi, je les vois tous. Parce que je vois en rond. Et cela me permet d'être partout à la fois. Partout. Mais où sommes-nous ici? Sur une scène? Dans un studio? On ne sait plus. Dans une rue? Ah! Nous sommes à Vienne. 1900. Changeons de costume. 1900. Nous sommes dans le passé. J'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent. Et tellement plus sûr que l'avenir.
Troisième époque. La République est fondée le 30 janvier à 6h45 du soir. Au printemps, Bismarck, inquiet du relèvement trop rapide de la France, lance une campagne d'intimidation dans les journaux allemands, stoppée par l'intervention de l'Angleterre et de la Russie. Amédée Bollée récolte 75 contraventions pour excès de vitesse en faisant rouler un omnibus à vapeur du Mans à Paris à 13 km de moyenne. L'opéra Garnier a été inauguré au début de l'année et l'opéra retire la Carmen de Bizet jugée trop réaliste. Jules a 16 ans, c'est un beau jeune homme, il est appliqué, ses parents sont satisfaits de lui. Apolline le trouve beau, intelligent, elle ne voit que lui. À 19 ans, elle ne se laisse courtiser par personne et est toujours avec son frère. Sa mère s'en inquiète.
« Tu finiras vieille fille et laisse ton frère tranquille. Tu ne peux pas sortir sans lui. Il y a de tant de garçons qui seraient heureux de t'accompagner. »
Elle hausse ses épaules et lui répond.
« Peut-être bien, mais je les trouve idiots.
Et ton frère ?»«
Lui, c'est pas pareil, il est intelligent. » La mère hausse ses épaules et lui dit.
« Mais c'est ton frère. »«
Tu ne vas pas me reprocher d'aimer mon frère. »
« Non, mais trop aimer son frère, ce n'est pas bien. »
Elle embrasse sa mère et lui dit « Bon, je te laisse, je vais être en retard. »«
Où vas-tu ?»«
Chez Hortense, Baudouin. »«
Tu sais que je n'aime pas que tu ailles chez cette femme. » »«
Parce qu'elle a fait du théâtre ?»«
Non, mais à cause de sa vie tumultueuse. »
Apolline aux ses épaules, sa mère lui dit
« N'emmène pas ton frère. »
« Je ne l'emmènerai pas, si ça peut vous faire plaisir. Au revoir, mère. »
Et elle sort du salon.
Confirmé.
Dehors, le temps est froid et sec. Elle va d'abord pas du côté de Caluire. Hortense a une villa sur les hauteurs entourée d'arbres. La maison est toute blanche au fond d'un parc. Elle sonne. Lui a ouvert une petite bonne dans les 20 ans. Mademoiselle, je suis Apolline Beaumandin et Madame Baudouin m'a dit de venir la voir. Je sais, mademoiselle. Si vous voulez me suivre, et elle suit la petite bonne. Qui l'amène à la maison. La maison est à un étage et tout en rondeur. La bonne la fait entrer dans la maison. L'intérieur de la maison est une bonbonnière doublée de satin. On dirait un petit décor de théâtre. Dans le hall, la bonne va frapper à une porte vitrée.
Et entre. Puis, on ressort tout de suite.
Et dit à Apolline, « Vous pouvez entrer. » Apolline entre. C'est un espèce de salon boudoir, beige clair, meublé Louis XV, avec des meubles de bois peints en blanc et satin beige comme les tapisseries. Il y a une grande cheminée où pétille un bon feu. Assise à terre devant le feu, une femme mince et grande dans les 25 ans, ou peut-être moins, les cheveux blonds qui ondulent d'effet, de grands yeux bleus, une bouche boudeuse. Est un baignoire rose, d'où l'on voit des longs bras bien fins de petite fille et des pieds nus. À côté d'elle est allongé un petit caniche tout blanc. Elle le brosse avec une brosse en manche en écaille blanc. Lorsqu'elle voit Apolline, elle lui dit
« Billy a été malade ce matin. » Il a vomi son potage.
Apolline s'avance vers elle. Se penche et les deux femmes s'embrassent. Puis Apolline s'assoit à terre à côté de son amie.
Ton frère n'est pas venu ?
Non, il est occupé à un devoir.
Hortense soupire et lui dit.
Il travaille trop. Il devrait tout arrêter, ces machins, et venir m'aider à écrire mes mémoires.
Apolline lui dit, il ne veut pas écrire pour une autre personne, mais pour lui.
Mais moi, je ne suis pas une autre personne.
Elle soupire. Elle lui dit, tu savais que je m'ennuie ici. Avant, je n'avais pas une minute à moi. Paris, c'était tout de même quelque chose. tu n'as qu'à y retourner. Malheureusement, c'est impossible. Depuis le suicide d'un de mes amis et mon divorce, j'étais mise en bas de la société. Tout traitée de sorcière et tout, quoi.
Apolline lui demande, que s'était-il passé? Tu n'as pas lu les journaux? Chez nous, nous ne lisons jamais les journaux. Vous avez bien raison. Elle se lève, le chien s'est endormi. Viens, on va prendre le thé.
Apolline se lève aussi. Hortense pose la brosse sur la cheminée et appuie sur la sonnette pour faire venir la bonne.
On a frappé à la porte.
Entrez.
C'est la bonne. Apportez-nous le thé, s'il vous plaît.
Une fois qu'elle a fermé la porte, Hortense dit, j'ai à peine fini de sonner qu'elle est déjà là. Je me demande si elle n'écoute pas aux portes.
Apolline lui dit, mais elle est à la porte?
Surtout pas.
Pourquoi?
Parce qu'elle est très jolie et jeune. Je ne supporte pas ces vieux machins. Allons nous asseoir.
Elles vont s'asseoir sur un canapé devant une table basse.
Nous sommes bien ici, n'est-ce pas?
Apolline lui demande, raconte-moi le pourquoi de ton exil. Hortense soupire et lui dit,
c'est une histoire toute bête, tu sais. J'étais mariée avec un garçon charmant. J'avais eu un petit garçon de lui. T'allais bien. Je répétais une pièce au bouffe parisien. J'avais beaucoup de travail. Il fallait que j'apprenne mon rôle. Et c'est des robes coiffées et tout.
On a frappé à la porte.
Entrez.
C'est la bonne avec un plateau qui va le déposer sur la table.
Laissez, je vais servir moi-même.
Bien, madame. Et Hortense sert le thé.
Du sucre?
Non, merci.
Du lait?
Un peu, oui, merci.
J'ai des brioches qui sortent du four et sont toutes chaudes.
Pendant qu'elles boivent et mangent, Hortense continue à parler.
Donc, tout allait bien. Lorsqu'un homme vint me voir aux répétitions, c'était le chanteur Beaubec. Dès la première entrevue qui s'était passée dans ma loge, tout de suite j'ai été charmé par lui. Le coup de foudre, quoi. Mais moi, lorsque j'ai le coup de foudre, je ne me tiens plus. Plus rien ne m'arrête. Je voulais absolument le voir, lui faire la cour. Tout le jour, en cachette de mon mari, j'allais chez lui. Il a très vite été pris par mon charme et nous sommes devenus intimes. Malheureusement, lui était très volage et moi d'une grande jalousie. Je ne pouvais pas m'en empêcher de le suivre en cachette et de l'espionner. Bien entendu, comme j'étais très connu, j'étais remarqué très souvent avec Beaubec. Les journaux ont parlé
Il y a eu des scènes avec mon mari. Je voulais ma liberté. Il ne voulait pas. Il était très sensible. Il ne supportait pas de me perdre. Et un soir que j'étais avec Bobek, il s'est tiré une balle dans la tête, dans son bureau, chez nous. Ça fait un scandale terrible. On a fait un rapprochement avec ma liaison et dit que c'était de ma faute, que j'étais une femme de mauvaise vie, etc. Mon amant m'a quitté. Plus personne ne voulait me voir. Même pas ma famille. Ma belle famille a fait un procès pour prendre mon fils. Avec tout ce scandale, j'ai été obligée, bien entendu, de quitter Paris. Un vieil ami m'a trouvé cette maison et m'aide un peu. Voilà, tu vois, tu connais tout. Tu connais tout. Tu n'as pas de remords pour ce qui s'est passé? Non. Parce que je suis comme ça. Je ne cherche pas à faire le mal. J'ai aimé, voilà tout. Apolline lui demande. Même pas pour ton mari? Oui, même pour lui, même pas pour lui. On peut aimer deux hommes à la fois. Moi, je suis nature, simple. Tu ne penses pas au suicide de ton mari? Oui, bien sûr. Mais je ne me sens pas coupable. Il aurait pu me prendre tel que je suis. Et ton enfant? J'ai eu un enfant sans le désirer. Je ne suis pas du tout mère, tu sais. J'ai jamais eu un comportement avec lui. J'ai jamais su me comporter comme il fallait. Mais moi, tu sais, j'ai un caractère enfant. Alors, tu penses avoir un enfant? Enfin, voilà. Maintenant, je suis ici. Avec une domestique, trois chats, un chien. Un vieux protecteur.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Les délires de la sublimation dont c'était la 8e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.